À Rencontre spirituelle aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu particulière en parlant d'un héros de notre histoire québécoise, un prêtre, l'abbé Étienne Chartier, qui est mort en 1853. On le qualifie de curé patriote de Saint-Benoît lors de la rébellion de 1837, et le père Chaussé, le jésuite que vous avez souvent entendu sur nos ondes, et qui est un éminent historien, le considère comme un des personnages les plus intéressants, vraiment, de notre histoire, dans un sens, et surtout parce qu'il est un homme d'avant-garde qui avait des visions, des choses, des façons de voir, je devrais dire, qui était pour ainsi dire 100 ans à l'avance. Et il disait, ce prêtre exceptionnel, ce curé de Saint-Benoît, dans une lettre qu'il a publiée en 1843, il terminait sa lettre en disant « Il est peut-être dans le monde quelque chose de plus absurde encore que les révolutions, c'est l'immobilité. Il n'y a rien de pire que d'être immobile. Vous savez que la base première d'Abraham, notre ancêtre dans la foi, le père des croyants, c'est d'aller, de marcher comme Dieu le lui avait demandé. Et cette démarche est essentielle. On pourrait dire pour nous chrétiens que nous avons un chemin de croix qui mène à la résurrection et il faut marcher. Il faut aller de l'avant. Autrement, nous sommes immobiles et l'abbé Étienne Chartier a bien raison de dire ce qu'il dit, à mon avis. Dans La Patrie, un journal fondé par Honoré Beaugrand, qui était, soit dit en passant, un Beaugrand Champagne qui avait su couper son nom parce qu'il trouvait ça trop long, eh bien, dans La Patrie, ce journal qui est disparu, du 9 décembre 1933, Égidius Fauteux, qui était un homme très compétent, a écrit les carnets d'un curieux, Étienne Chartier, ou les avatars d'un curé révolutionnaire. Il a cherché tout simplement, il s'est proposé à accomplir un acte de justice, en somme, envers ce héros, dit-il, malheureusement ignoré par beaucoup d'historiens. Étienne Chartier, un Québécois, quoi, un Canadien, est né à Saint-Pierre, de la Rivière-du-Sud, dans le comté de Montmagny, le 29 décembre 1798, c'est pour ça que je consacre cette émission un peu à lui, parce que c'est le 200e anniversaire de sa naissance. Il était le fils de Jean-Baptiste Chartier et de Geneviève Picard des Trois-Maisons. Vous savez qu'autrefois, beaucoup de gens avaient deux noms de famille, ça revient avec les noms de la mère, là. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment leur nom, un peu comme les Gérin-Lajoie, les Couillard-Després, les Beaugrand-Champagne, etc. Les gens me demandent si c'est le nom de ma mère. Ce n'est pas du tout le nom de ma mère, Beaugrand. Et ses ancêtres, Étienne Chartier, après avoir habité la belle île d'Orléans, hein, dans les premiers temps du Canada, de la colonie, comme on dit parfois, se sont établis à Saint-François-du-Sud et à Saint-Pierre que vers le milieu du 18e siècle, dans le comté de Montmagny. Il entre au petit séminaire de Québec et il fait ses études classiques, comme on disait. Il acquiert un bagage assez considérable de connaissances, parce que c'est un lecteur et c'est un ardent. Il a une connaissance incontestable du monde littéraire. C'est ce que lui reconnaissent d'ailleurs ses confrères, même les prêtres. Et ce sont les signes qu'au collège, il a dû être un bon et même un brillant élève. C'est un garçon remarquable, hein? Son premier rêve n'est pas de porter la soutane, mais plutôt de revêtir la toge de l'avocat, comme on dit. Et peut-être que c'est son ardeur patriotique qui le porte à songer à arriver ainsi par le droit, là, jusqu'au Parlement, peut-être, pour y poursuivre cette lutte commencée par ses devanciers contre les Anglais qui avaient conquis le pays et ils avaient donc, à cette époque, des sentiments nationalistes très poussés pour la plupart d'entre eux. Hein. même je dirais presque tous. Il s'agissait donc de défendre des droits nationaux et de défendre des droits religieux qui étaient opprimés, en bonne partie, par les Anglais qui occupaient la ville de Québec et le Canada. Depuis quelques années déjà, depuis 80 ans, 70 ans, ça dépend des années où on se place. Ce qui est certain, c'est qu'il étudie le droit à Montréal pendant 5 ans à partir de 1818, de l'âge de 19 ans à 24 ans. Il reçoit le 31 décembre 1823, donc à 24 ans environ. Il a 25 ans. Il vient d'avoir ses 25 ans l'avant-veille. Ça devient comme des étrennes de Noël ou un cadeau d'anniversaire. Il reçoit sa commission d'avocat dûment signée, paraffée, puis scellée. C'est solennel, ça y est. Au dire des contemporains de M. Étienne Chartier, il a réussi à établir à l'Assomption une école bien au-dessus de la moyenne. Il se lance dans l'enseignement, quoi. Monsieur Chartier, pendant qu'il enseigne à l'Assomption, vous connaissez la ville de l'Assomption, demande qu'on lui permette de prendre la soutane, là. Sa vocation se dessine. Il va devenir un très bon prêtre, très très bon prêtre, admiré par ses fidèles. Dès le mois d'août 1825, un évêque, l'évêque de telle messe, appuie sa requête auprès de Monseigneur Plessis, qui est l'évêque principal de Québec, de la façon la plus pressante, parce qu'il le considère comme un sujet extrêmement intéressant. Dès le commencement de 1826, toujours à 25 ans, il quitte l'Assomption et entre au Grand Séminaire de Québec pour y commencer ses études de théologie. Or, précisément, pendant ce temps, Monsieur Charles-François Pinchot, qui est curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un prêtre éducateur, vient d'assurer, après toutes sortes d'obstacles difficiles que lui imposent en particulier les Anglais, la fondation dans sa paroisse du collège qui lui tient tant à cœur. C'est une grande préoccupation, l'enseignement, parce que souvent, nos ancêtres ne pouvaient même pas étudier facilement. Il fallait qu'ils copient leur grammaire à la main, paraît-il. Sa grande préoccupation, donc, n'est plus que de recruter des professeurs, ce monsieur Pinchot. Des professeurs compétents pour ce nouveau collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et l'entrée de M. Chartier dans l'État ecclésiastique, lui paraît comme un signe de la Providence. Parce que c'est un avocat, c'est un type cultivé, c'est un type renseigné, ce serait un excellent professeur. Alors, il jette immédiatement les yeux sur lui pour en faire non pas seulement un professeur, disons de latin, mais le principal même de son collège. Il le veut comme principal. À la demande que lui en fait M. Pinchot, Mgr Panet, évêque, s'oppose d'abord fermement. Il veut bien permettre à quelques élèves du grand séminaire qui auraient terminé leurs études d'aller enseigner à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais il veut absolument que M. Étienne Chartier, ce jeune séminariste, qui n'est plus si jeune, qui est une vocation un peu tardive, n'est encore que sous-diacre, bien qu'il achève son cours de théologie. Mais, vous savez, un fondateur, comme M. Pinchot, c'est un peu comme un inventeur, ça se calme pas si facilement. M. Pinchot tient mordicus à son idée, il cesse d'assiéger Mgr Panet, évêque de Québec. Puis même si M. Chartier a été sur les entrefaites ordonnés prêtres le 23 décembre 1828, avant l'heure, puis probablement en prévision de sa nomination comme principal du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais presque toute une année va se passer encore en négociation puis en échange de lettres, ça prend du temps. Et Mgr Panet, finalement, il voudrait garder ce prêtre, mais il finit par accepter, et puis le 9 septembre 1829, 15 jours seulement avant l'ouverture du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l'abbé Chartier est libéré, il peut donc s'en aller là-bas, et il peut paraître étrange que Monsieur Pinchot, le supérieur fondateur du collège, dépense tant d'efforts pour placer à la tête de son collège nouveau un jeune homme de 30 ans, qui a à peine achevé sa préparation sacerdotale. C'est à croire que le bon curé a été vivement impressionné par l'éclat qu'a dû jeter en son temps là, l'école de l'Assomption que Étienne Chartier avait fondée comme laïc et avocat. Et il faut aussi se souvenir que la rareté des prêtres est telle, comme aujourd'hui, est telle à cette époque que le pauvre évêque de Québec n'arrive même pas à subvenir aux besoins des paroisses, il n'y a rien de nouveau. On est à cette époque-là, en 1830, et c'est comme ça. Mais lorsque M. Pinchot, curé Saint-Anne de Pocatière et fondateur du collège, en septembre 1829, s'en retourne triomphant à Sainte-Anne avec sa conquête, oh là là, il est loin de s'attendre à la tuile formidable que le nouveau principal va faire tomber sur sa tête. Quelques semaines seulement plus tard. Le 23 septembre 1829 a lieu l'entrée des élèves au collège de Sainte-Anne de la Pocatière, puis là, la cérémonie se fait avec toute la pompe de l'époque. Hein. Souvenez-vous, les gens de mon âge, hein, combien on avait tout ça, des gens avec des ceinturons rouges, des gros fauteuils pour les asseoir, et puis il y avait une pompe, il y avait même des personnages, souvent des laïcs en costume de toutes sortes. Plus tard, c'est venu, c'était les zouaves. Quand ma jeunesse, il y avait ça. Il y avait une espèce de pompe, hein. On aimait la beauté des choses, mais il n'y avait pas de télévision, on se faisait du spectacle, là. Alors, à la grand-messe, l'orateur de la circonstance n'est autre, évidemment, que M. Étienne Chartier, le nouveau supérieur, directeur du collège, que M. Pinchot, l'abbé Pinchot, le curé Pinchot, appelle solennellement M. le principal. Et prenant pour texte le verset du psaume « Nisi Dominus Edificaverit Domum », si, à moins que le Seigneur Dieu n'édifie la maison, alors il prononce un grand sermon qui est religieusement écouté, mais qui ne paraît pas sur le moment être autrement remarqué. Je vous ai dit que tout le monde était très nationaliste à l'époque, très français, très très canadien. Comme on disait, il y avait les Canadiens puis les Anglais. Les Anglais étaient des intrus à cette époque, c'était comme ça. Et puis, la fête s'achève au milieu de la joie générale. Malheureusement, on a compté sans la présence d'un journaliste. Puis, le principal, M. Chartier, a consenti, lui, le plus innocemment du monde, parce que c'est un homme sincère et bon, à remettre son texte au journaliste, il se doute de rien. Peu de jours après, le 28 septembre, le sermon inaugural de la fête de Sainte-Anne s'étale en entier dans les colonnes de la Gazette de Québec. C'est immédiatement un tollé chez toute une partie de la population anglophone de la région de Québec qui prétend avoir été ignominieusement insultée par l'insolent prédicateur. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors, le Quebec Mercury, puis le Quebec Star, et surtout l'autre Gazette de Québec, qui la version anglaise, a publié par l'autorité anglaise, d'ailleurs, qui est un journal presque officiel, lance tour à tour des cris de paon, dit-on à l'époque. C'est l'expression, des cris de paon. Et ne demande rien de moins que la tête du coupable. Mais qu'a donc fait de si grave M. Chartier, ce bon prêtre, ce prêtre cultivé, dans ce sermon qui n'a paru scandaliser aucun de ses auditeurs francophones lorsqu'il fut prononcé? Ça rappelle peut-être les difficultés qu'a eu récemment un certain M. Jacques Parizeau. Alors, qui était premier ministre du Québec à ce moment-là. Après avoir donc dit que tout bon citoyen doit se réjouir de voir se multiplier dans le Canada les moyens d'éducation, l'orateur en donne des raisons que je vais vous donner tout à l'heure en vous lisant textuellement ce qu'a dit ce bon prêtre, Étienne Chartier. Alors, je vous ai promis de faire la lecture de ce discours fameux qui a énervé toute la ville de Québec et tout le canal. Je sais pas, le Bas-Canada anglais de l'époque. On parlait du Bas-Canada pour le Québec, le Haut-Canada pour l'Ontario, qui était à peine habité à l'époque. Alors, il dit donc dans l'église, en chapelle, environné d'une population étrangère, aussi différentes avec nous de religion et d'habitude que d'origine, fière de sa puissance et de sa prééminence acquise sur les autres, orgueilleuse de ses lumières, de ses richesses et de ses succès, animée d'un tel esprit public que chaque individu s'identifie avec la nation, que la gloire et l'importance acquise par le corps en général, chacun en particulier se l'approprie. Quelle sympathie pouvait-on attendre entre ces fiers Bretons, sans doute veut-il dire des British, comme on dirait aujourd'hui. Quelle sympathie pouvait-on attendre entre ces fiers British et une province sortie d'une nation ennemie et toujours rivale? Une lutte devait nécessairement s'en suivre. Quelle déférence, quel respect pouvait-on attendre d'eux pour les droits d'une province que leur intérêt particulier et leur orgueil national leur suggéraient de garder et traiter en province conquise? Et ce prêtre continue en disant, il devait naturellement tendre à établir en Canada l'ilotisme politique comme ils l'ont essayé naguère sous un chef trop facile, fort d'une supériorité que leur donnait une plus profonde connaissance des institutions anglaises substituées aux institutions françaises dans le pays, fort surtout, écoutez bien, d'une éducation supérieure à celle de la masse des Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens, c'est les Canadiens français, les Québécois, qu'est-ce que ceux-ci pouvaient attendre d'eux? Le mépris. Le mépris qu'ils ne nous ont pas épargnés depuis la conquête en 1760. Qu'est-ce donc qui sauvera le Canada du mépris, de la dégradation et de l'esclavage politique? L'éducation, oui, l'éducation politique. Et il ajoute en tant que prêtre, croyant et catholique, et si l'on fait réflexion que nos droits religieux reposent sur la même base que nos droits politiques, on ne devra pas trouver étrange que j'appuie dans la chair évangélique sur les déconsidérations politiques que la circonstance amenait nécessairement. Alors évidemment, un tel discours aujourd'hui est impensable. On ne parle plus comme ça. D'abord, c'est en trop beau français. Deuxièmement, on ne dit plus ces choses. L'incident prend un moment des proportions d'une affaire d'État, mais si l'abbé Chartier est violemment attaqué dans les colonnes du Mercury et du Star par toute une armée de Bretons, comme on dit, de British irrités, il trouve en revanche de nombreux défenseurs qui ripostent dans la Gazette de Québec et dans le Canadien, des journaux français, en prétendant que l'on abuse d'un discours, qui a peut-être été préparé avec un peu de précipitation, et que, même tel qu'il est, ce discours, après tout, ne dit rien que de vrai, disent nos ancêtres à ce moment-là. Il faut dire que, pendant tout l'orage, M. l'abbé Chartier et les autres membres du Collège Saint-Anne-de-la-Pocatière ont la sagesse de ne pas intervenir une seule fois au débat. Le curé Pinchot de Saint-Anne-de-la-Pocatière, fondateur du Collège, ayant été soupçonné d'être l'auteur d'un des articles signés Jean-Baptiste, qui défendent M. Chartier, croit même devoir publier, sous sa signature, dans la Gazette de Québec du 26 novembre 1829, qu'il n'a jamais écrit un seul mot dans les journaux touchant cette désagréable affaire. Et d'ailleurs, ce curé Pinchot va s'attaquer à l'abbé Chartier plus tard, dans plusieurs années plus tard, ou 15 ans plus tard. Entre-temps, le bruit se répand que, à l'instigation de Sir James Stewart lui-même, le conseil exécutif s'est réuni en session extraordinaire pour examiner la ligne de conduite qu'il convient de prendre à l'occasion de ce fameux discours. Et on dit aussi que Sir James Kempt, l'administrateur de la province, nous étions donc administrés par des Anglais, comme vous voyez, longtemps après la conquête, quoi, a en conséquence fait savoir à l'évêque de Québec, parce qu'il donnait des ordres à l'évêque de Québec, que le gouvernement ne peut être satisfait que par la punition exemplaire du coupable, en d'autres termes, par son déplacement immédiat. Mais l'opinion de langue française, elle, est ameutée à son tour, elle s'empresse de protester avec véhémence contre cet abus de pouvoir. Des lettres paraissent tous les jours dans les journaux où l'on adjure l'évêque de Québec de ne pas céder à une pression si injuste de la part des Anglais et de ne pas permettre une atteinte aussi injustifiée à la liberté sacrée de la parole, attaquée par les Anglais. Mais de plus en plus, la rumeur persiste que Mgr Panet, évêque de Québec, incapable de résister aux ordres formels de Sir James Kempt, va décider d'exiler l'abbé Chartier, soit au fond du Nouveau-Brunswick à Caraquet, soit quelque part dans la Nouvelle-Écosse, on ne sait au juste. Il n'y a, en fin de compte, que l'opinion anglaise démue, mais à aucun moment le gouvernement lui-même ne songe à intervenir, finalement. Mais l'évêque de Québec n'a pas besoin de l'intervention du gouvernement pour savoir que le principal de Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a au moins commis une grave imprudence, évidemment, en saisissant une occasion aussi solennelle pour faire une sortie contre les Anglais, puis une sortie très forte. Selon toute apparence, l'abbé Étienne Chartier, principal donc du collège de Sainte-Anne, après conversation avec son évêque, a presque consenti à se sacrifier pour amener l'apaisement. Il semble qu'il a à moitié accepté d'aller s'enterrer pour quelque temps à Chéticamp, dans l'île du Cap-Breton, mais ce n'est pas un ordre absolu de la part de l'évêque qui, dans son cœur, partage probablement les idées de son prêtre. Mais les évêques sont mal pris. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors, mais Chartier prend sur lui d'en ajourner l'exécution, l'évêque aussi. Puis après réflexion, l'abbé Étienne Chartier s'est avisé de temporiser, puis il temporise en effet si bien qu'après quelques semaines, la tempête soulevée par son discours est définitivement calmée. Il n'est plus question de l'exiler. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres ennuis d'ordre scolaire qui vont ruiner la carrière déjà ébréchée de monsieur le principal du collège de Sainte-Anne. Il est toujours principal. Il a des idées toutes particulières sur l'éducation. Il rêve de former une élite de jeunes capables de se guider eux-mêmes. Imaginez, il est à l'avant-garde, hein? Je vous ai dit que le père Chaussée, jésuite très connu aujourd'hui, le considère comme un homme extraordinairement d'avant-garde, 100 ans à l'avance. Alors, il entend ne conduire ses élèves que par la raison et par les sentiments d'honneur. Personne dans son collège n'est astreint à un règlement détaillé. Il n'y a qu'une discipline générale, renfermant plutôt des maximes de morale que des restrictions de liberté. Il va jusque-là. La messe de communauté sur semaine est facultative. Imaginez. Mon Dieu, moi, dans mon jeune temps, c'était impensable. Au 20e siècle. Et là, on est au 19e. Dans les années 20, la messe de communauté sur semaine est facultative. Et de même, le chapelet est très d'avant-garde. Les régents ne doivent pas s'apercevoir qu'un élève néglige de communier, même dans le temps pascal. Il va pas de main morte, ce prêtre, comme respect de la conscience. Les amitiés, disons vaguement particulières, là, pas des amitiés sensuelles, des amitiés particulières sont permises. Mais si des abus se glissent dans le collège, il décide que ce n'est pas au maître de les réprimer, mais aux élèves, qui élisent, un peu comme en Angleterre, des représentants, on fait ça dans les collèges et les universités anglaises, qui élisent des représentants chargés d'entendre les coupables et de les juger, puis de les punir. Et ce jury d'honneur a pour chef principal le principal lui-même, qui a pour titre le gouverneur. Alors, l'abbé Pinchot, qui a cru bon de laisser s'établir cette espèce de belle république d'élèves dans son établissement, s'aperçoit malheureusement qu'elle ne donne pas de bons résultats. C'est un rêve. Et l'abbé Chartier, lui-même, là, après s'être rendu compte qu'à l'exemple de Jean-Jacques Rousseau, vous savez, vous connaissez ça, hein, il a trop compté sur la bonté foncière des enfants. Il s'avoue désillusionné, vaincu. Alors là, il demande la permission de se retirer du collège parce que vraiment, c'est trop. Et c'est à la fin de la première année scolaire, juste après 10 mois de principalat, qu'il décide de partir. Mais je crois qu'on devrait avoir du respect pour un homme qui s'est peut-être trompé, mais qui est un homme exceptionnel. Exceptionnel et que nous devrions mieux connaître. Surtout qu'on parle tellement contre nos prêtres de nos jours. Pourquoi ne pas mettre en vedette cet abbé Chartier, qui n'est pas chanceux. Il entreprend au collège des réformes extraordinaires. Alors, il démissionne, puis il est nommé à Sainte-Martine de Châteauguay. Puis 2 ans plus tard, en 1833, on le nomme à Saint-Pierre-les-Béquets. J'ai toujours aimé ça, ce nom-là, Saint-Pierre-les-Béquets. Son séjour n'est plus bref encore, il dure à peine 1 an parce que, quoi, il arrive au moment, je vous raconte toute l'histoire, ça vaut la peine, il arrive au moment où s'agite une question qui arrivait souvent dans nos paroisses canadiennes, comme on disait à l'époque. S'agissait la question d'une nouvelle église à bâtir, et l'on sait trop quel effroyable nid à discorde a toujours été de semblable question dans nos paroisses. Alors, une partie de la paroisse voulait la nouvelle église à un certain endroit, puis l'autre partie à 15 arpents plus loin, paraît-il. Mais pour 15 arpents ou pour 1000 arpents, la bisbille dans nos paroisses est toujours la même en pareil cas à l'époque. Et je vous prie de croire, dit Gidius Fauteux, qu'à Saint-Pierre-les-Béquets en particulier, il y a du chahut en l'an de grâce 1834. Monsieur l'abbé Chartier est naturellement un homme solide, un peu batailleur peut-être, et lorsqu'une fois il a une idée en tête, il la défend. À la longue, l'évêque de Québec croit devoir encore une fois le déplacer. Il lui donne la succession de Monsieur Mailloux, Monsieur l'abbé Mailloux, à la cure de la rivière du Loup. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Saint-Pierre-des-Béquets. Naturellement, la partie de la population de Saint-Pierre-des-Béquets, qui est du parti de l'abbé Chartier, et du curé Chartier, quoi, mais qui se prétend la plus considérable, tient à faire de beaux et touchants adieux à son curé avant son départ. Le 9 septembre 1834, un an donc après son arrivée, elle se transporte à son presbytère afin de lui présenter, comme on faisait à l'époque, une belle adresse. Et cette adresse, on appelait ça comme ça, hein, qui est lue par le major Babi, de nom connu à Québec, ça, n'est pas banale. Je la cite, c'est tellement beau. C'est beau, c'est fidèle qui parle comme ça à leur curé. Hein. Nous aimions à croire qu'une demande expresse de la part des 9/10 d'une paroisse aurait quelque poids auprès des autorités. Mais il paraît que nous sommes dans un temps malheureux où les autorités semblent prendre plaisir à devenir sourdes à cet adage si juste « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous avions cru que la voix de toute une paroisse, proclamant vos vertus, votre vie angélique, tout le bien que vous avez fait à la cause de la religion et des bonnes mœurs, tout l'amour et le respect dont votre nom est environné, serait un poids suffisant pour contrebalancer les machinations de certains individus. Mais nous avons été cruellement trompés. Et l'adresse se continue comme ça en déclarant sans embâge que si un abus criant de pouvoir relègue ainsi, dit-on, les vertus et le patriotisme de leurs dévoués curés dans quelque obscur recoin du Canada, il n'en faut pas chercher d'autres raisons que dans une divergence d'opinion politique, voilà. Là, ils sont allés trop loin. Alors, dans sa réponse, Monsieur le curé Chartier, qui est très cultivé, je vous le rappelle, qui est un homme de grande envergure, commence par reprocher amicalement et gentiment à ses paroissiens de le mettre dans une fâcheuse alternative ou de manquer à la reconnaissance en n'acceptant pas l'expression si sincère de leurs sentiments. Ou bien il refuse l'expression de leurs sentiments, ou il manque à ses supérieurs en l'acceptant, puisqu'ils attaquent les autorités. Alors il ajoute, il ne faut pas confondre l'autorité ecclésiastique avec celui qui en est revêtu. Et c'est vrai, ça. Faut faire attention à ça. Les erreurs que peuvent commettre ces derniers ne peuvent pas ébranler le respect dû à l'autorité épiscopale. Toutes les erreurs de cet épouvantable pape Alexandre VI, il y a des gens qui me servent ça des fois. Regarde, comment peux-tu, etc. Ben oui, des erreurs d'un pape. Ça change rien à l'autorité du pape, à mon avis. Je respecte l'autorité de mon évêque dans n'importe quelle circonstance. Quant à ses opinions politiques, l'abbé Chartier dit « Je n'ai pas le désir de froisser celle de qui que ce soit et je demande seulement qu'il me soit permis d'avoir la mienne sans que je sois puni pour autant. » Alors, pas plus qu'à Saint-Pierre-les-Béquets, M. l'abbé Chartier ne va s'éterniser à la rivière du Loup où il a été nommé là. Il n'y est installé que depuis quelques mois, depuis septembre 1834, lorsque, comme un véritable juif errant, dit Egidius Fauteux, il plie de nouveau ses bagages, il emporte son calice et ses choses en 1835, puis il part pour une autre cure, une autre paroisse, celle de Saint-Benoît, qui va le rendre à jamais célèbre. Saint-Benoît, c'est près de Montréal. À Saint-Benoît, il pourrait être tranquille, du moins jusqu'à la malheureuse rébellion. Saint-Benoît, Saint-Eustache, tout ça, c'est ensemble. C'est la rébellion qui va éclater que 2 ans plus tard. Et ça va le mettre dans le pétrin. Placé en plein centre de l'agitation patriote, c'est une rébellion des Canadiens, donc de langue française, et d'une portion des autres Canadiens qu'on pourrait appeler les Canadiens, qui se centrent Canadiens contre les Anglais d'Angleterre et l'administration anglaise d'Angleterre. C'est pas une rébellion uniquement française, elle est aussi anglophone, à preuve William Lyon Mackenzie, l'ancêtre du premier ministre du Canada, Mackenzie King. Alors, placé en plein centre de l'agitation patriote, le curé Chartier n'est pas fait pour résister bien longtemps aux passions qui sont soulevées de toutes parts autour de lui et qui s'accordent trop bien avec son propre tempérament qui est excessivement vif et ardent. Hein. C'est un Québécois solide. Mais, il y a peut-être ça engendre des défauts peut-être, mais le programme qu'il a cherché à imposer au Collège de Sainte-Anne, on l'a vu, hein, il se faisait pas une petite idée de la liberté. La tyrannie, d'où qu'elle vienne aussi, lui paraît quelque chose d'intolérable, puis il souffre réellement des humiliations que subissent continuellement ses compatriotes. Le mépris de la part des Anglais, ça l'exaspère. Mais s'il déteste toute tyrannie, il aborde plus que tout autre la tyrannie anglaise. On peut dire que toute la genèse de son attitude en 1837 se trouve déjà dans son célèbre discours, que je vous ai lu en brève partie tout à l'heure, le discours de Saint-Anne de la Pocatière, prononcé 9 ans plus tôt. Monsieur l'abbé Chartier n'aimait pas les Anglais en 1828. Puis il les chérit peut-être encore moins en 1837. Ce qui est certain, c'est qu'en novembre 1837, il est plein d'acrimonie. Puis il est tout à fait dans le mouvement. Convaincu de la justice de sa cause et complètement illusionné, on pourrait dire, comme la plupart de ceux qui l'entourent, il ne veut pas douter que l'Anglais, conquérant, occupant d'après lui, sera culbuté dans cette irrésistible poussée de toute la population francophone et même anglophone, et qu'avant peu, l'habitant canadien-français en particulier reconquérera pour jamais tous ses droits religieux et civils dans le Bas-Canada, le Québec. Non content d'entretenir l'ardeur de ses propres paroissiens, il va jusqu'à Saint-Eustache, conférer avec le docteur Chénier, et insensiblement, il se trouve à être lui-même, quoique prêtre, l'un des chefs de l'insurrection, puis à un moment cependant, il paraît vouloir se ranger du côté de la modération. Hein. Oui, le 25 novembre 1837, là, il y a une discussion, puis il veut temporiser. Mais malheureusement, Il va pas persister longtemps dans cette attitude. Puis le 2 décembre 1837, là, quelques jours à peine plus tard, du haut de la chaire de sa propre église, il déclare avec force que pour la défense de ses droits, le peuple a le devoir d'aller de l'avant. Et il ajoute une parole malheureuse, et de se battre. Un prêtre ne doit jamais dire une chose comme ça. La violence est répudiée par Jésus-Christ au jardin de Gethsémani. Mais il semble l'avoir oublié. Grave erreur. Le 8 décembre, autre discours, où il se montre un peu plus mesuré. Mais où il n'abandonne cependant pas ses opinions, il recommande à la population d'être prudente, mais il prend soin d'ajouter que pour aucune considération, elle ne doit perdre de vue l'enthousiasme nécessaire pour la défense de ses droits. Je tiens à faire une mise au point, il n'a jamais pris les armes, lui, comme prêtre. Jamais, 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 jamais. C'était aux citoyens qu'il parlait, et c'était eux qu'il invitait à se battre. Le mardi matin 12 décembre, il reçoit au presbytère de Saint-Eustache la visite... On reçoit plutôt au presbytère de Saint-Eustache la visite de M. Chartier, l'abbé Chartier, curé de Saint-Benoît. On lui montre, et là c'est grave, une lettre qu'on a reçue de l'évêque de Montréal, dans laquelle il est blâmé fortement. La conduite de M. Chartier est blâmée terriblement. Le curé Chartier donc lit la lettre, mais cette lecture... ne semble en rien abattre son enthousiasme patriotique. L'abbé Chartier prend sa part du petit repas du presbytère. Il se rend ensuite au camp visiter ses braves, comme il les appelle. Et après leur avoir donné des encouragements, il repart pour sa paroisse. Le curé Chartier est de retour dès le lendemain au camp de Saint-Eustache, puis il déjeune avec l'état-major, puis sur les 11 heures, il se rend au presbytère. Dans l'après-midi, tous les insurgés sont rassemblés sur la place de l'église. Il y en a beaucoup avec des armes, entendons-nous, comme s'il s'agissait d'une revue, puis au nombre d'environ 800. Alors le curé Chartier montre sur la galerie du presbytère et leur adresse pendant une vingtaine de minutes un discours enflammé. Quelques instants plus tard encore, tout essoufflé des efforts qu'il a faits en prononçant son discours, il entre dans le presbytère en disant, « Eh bien, qu'ai-je fait? Me voilà maintenant en butte à l'autorité ecclésiastique. » Il me faudra donc double courage. C'est le dilemme tragique d'un bon prêtre, qui est un peu trop enthousiaste. Monsieur l'abbé Chartier, donc, après ce discours, repart pour Saint-Benoît, où se tient un conseil de guerre, et dans la même journée, revenu à Saint-Eustache, il se présente à la ferme, où s'est retiré Monsieur Paquin, qui est le curé de Saint-Eustache. Et avec lui, il a une longue conversation au cours de laquelle le curé Saint-Eustache lui reproche de prendre part aux excès que commettent les rebelles. Il a un bon conseiller, mais M. Chartier termine le débat en disant « Consolez-vous, monsieur. » Il dit une étrange parole. « Ces gens-là vous incommodent grandement, mais vous en serez bientôt délivrés. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il semble pas possible de croire que si ces paroles sont vraies, le curé de Saint-Benoît ait eu le moindrement dans sa pensée en les prononçant l'effroyable tuerie que vous connaissez, si vous connaissez bien l'histoire de votre pays ici, l'effroyable tuerie qui va en effet décider quelques jours plus tard les patriotes, ça va les décimer et les mener... à la vague paix, puis délivrant en même temps le curé de Saint-Eustache. Est-ce qu'ils vont tous mourir? C'est ça qu'il veut dire. Non, il croyait sûrement que dans quelques jours, tout au plus, les siens seraient victorieux et qu'après le triomphe espéré, ben, tout rentrerait aussitôt dans l'ordre. C'est plutôt dans la mentalité de l'abbé Chartier. Puis au moment suprême, lorsque l'armée anglaise, très supérieure en nombre et surtout mieux armée, débouche sur la place, lorsque les patriotes commencent à fuir, après avoir compris que devant une telle force, toute résistance est inutile, l'abbé Chartier lui s'aperçoit que tout est perdu. Mais que faire? Alors, il n'y a qu'une issue raisonnable, c'est la fuite. Oui, l'éloge de la fuite, comme dirait un certain auteur. Et, en attendant des jours meilleurs, comme il les espère toujours. Et ce qui paraît certain, c'est que M. Chartier, le docteur Brien, puis les deux fameux frères de Lorignier, se trouvent à un moment réunis, puis partent ensemble par des terres éloignées, là. Ils se dirigent du côté de Berthier, et ils parviennent, paraît-il, sur le sol américain à un moment donné, et les Anglais ne réussissent pas à les attraper. Alors voilà que notre abbé Chartier a dû se réfugier aux États-Unis, traverser la frontière. Par novembre 1839, mais les réfugiés sont assez nombreux, les réfugiés, parce qu'il y en a d'autres qui ont été attrapés, ont été pendus, comme vous savez, au pied du courant. On a un monument à Montréal, là, près du pont Jacques-Cartier, en l'honneur de ces patriotes qui ont été pendus par les Anglais. Eh bien, en novembre 1839, les réfugiés, de plus en plus impatients de l'inaction de Papineau, qui était le chef de la rébellion, et qui est à Paris, mais qui ne donne pas de ses nouvelles, croient que le temps est venu de vider enfin cette question, puis on songe à envoyer un délégué porté à ce grand homme, croit-on, une adresse, ou plus exactement une sommation. Et le choix de l'ambassadeur est naturellement difficile, mais après quelque temps, c'est l'abbé Chartier qui consent et accepte cette tâche plutôt ingrate d'aller auprès de Papineau, qui est loin d'être un catholique fervent. C'est plutôt un anticlérical. Voici ce qu'écrit ce Maillot à ce sujet le 22 novembre 1839. Il dit... Monsieur Chartier est suivant moi, écoutez bien, le meilleur choix que nous puissions faire. Il a en diverses occasions donné des preuves non équivoques de son indépendance, de son zèle, de son activité, de sa persévérance, de ses capacités particulièrement comme écrivain et de son patriotisme. De s'être embarqué dans la cause de l'indépendance canadienne, malgré son évêque et presque tous ses collègues prêtres, est une preuve de son indépendance. Avoir abandonné sa cure de Syracuse, puisqu'il avait occupé une cure à Syracuse, dans le mois de février, pour venir nous aider à travailler à l'émancipation de notre pays, est une preuve de son patriotisme. Son voyage de Québec, où il s'est exposé au plus grand danger, il aurait pu être capturé, est une preuve de sa persévérance et de son zèle. Maintenant, M. l'abbé Chartier, retrouvant une cure où il peut vivre tranquille, est prêt à faire l'abandon de cette place, à s'exposer aux calomnies et aux injures, et à se rendre en France afin d'aider la cause. D'ailleurs, nous sommes certains qu'avec M. Chartier, il n'y a ni prétention ni intérêt personnel. Il n'a pas d'argent, mais il lui en faut un peu. Il partira donc avec 25 livres anglaises. Monsieur Chartier n'a communiqué à personne le but de son voyage, heureusement d'ailleurs. Alors, comme vous voyez, on l'apprécie partout pour son désintéressement, malgré ses prises de position que l'on n'est pas obligé d'endosser, évidemment. Alors, il semble que c'est Papineau qui, à la fin, va convertir l'abbé Chartier au lieu d'être converti par lui. Il le convertit tout simplement à cette idée, qu'il avait déjà depuis longtemps lui-même, qu'il n'y avait rien à espérer du gouvernement américain, de la France encore moins, et que, pour tout résumer, les réfugiés perdaient leur temps. Alors, l'ancien curé se rembarque pour l'Amérique en juillet 1840, et lorsqu'il part de Paris, au témoignage d'Amédée Papineau, il a déjà l'intention de quitter la propagande active et d'aller reprendre, comme un bon prêtre, du ministère dans le diocèse de Vincennes en Indiana. Ça peut vous sembler curieux, en Indiana, Vincennes, c'était une ville française, et puis l'évêque était français, etc. C'était des gens de chez nous qui allaient s'établir là. Dans cette lointaine retraite, il a tout le loisir de réfléchir à sa conduite, hein? À la vanité peut-être de ses illusions passées. Finalement, en novembre 1841, il fait un retour sur lui-même comme prêtre, là, puis il conçoit l'idée peut-être excessive de se rendre au Canada pour y faire publiquement réparation à ceux qu'il a scandalisés. C'est un bon prêtre, comme vous voyez, qui s'est laissé emporter. Et c'est alors qu'il fait publier dans les journaux sa fameuse lettre de soumission adressée à Monseigneur Bourget. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Monseigneur Bourget le reçoit à bras ouverts. Il lui confie la paroisse de Saint-Grégoire d'Iberville. Puis en 1849, il demande lui-même d'être transféré à Sainte-Philomène, qui est près de son ancienne paroisse de Sainte-Martine, et où il espère finir ses jours. Mais là aussi, il a une église à bâtir, par son grand déplaisir, il se retrouve au milieu encore de la tempête des paroissiens, comme celle de tout à l'heure, que je vous ai raconté. Alors, en 1850, il demande sa réintégration dans le diocèse de Québec, puis il l'obtient avec la cure de Saint-Gilles de Beau-Rivage. C'est sa dernière cure, enfin, sa dernière paroisse. Il est alors attaqué d'une maladie de foie. Mais il est féru d'homéopathie, alors il s'obstine à traiter son mal d'après ce système qui est alors très nouveau. Et le résultat est qu'il meurt à l'Hôtel-Dieu de Québec le 6 juillet 1853 à l'âge de 55 ans. Sa mort passe presque inaperçue et quelques-uns seulement des journaux du temps la signalent en quelques brèves lignes, on n'ose pas appuyer. Tellement on a peur de nos héros, même s'ils ont fait des erreurs. Nous sommes un drôle de peuple. Le curé Chartier, que pour ma part j'admire beaucoup en dépit de sa faute, car il faut comprendre, se mettre dans l'esprit du temps. Eh bien, le curé Chartier a certainement mérité mieux que cette indifférence, il me semble. Peut-être que je fais erreur, que je comprends pas les choses et que je comprends mal ce qui s'est passé. Il a eu des lacunes considérables, je le concède. Mais il a possédé, d'autre part, comme dit Égidius Fauteux, plusieurs des qualités qui font le plus d'honneur à l'homme. Citoyen, il ne fut peut-être pas d'une profonde sagesse, mais il a aimé immensément son pays. Il lui a sacrifié jusqu'à ses meilleurs intérêts. Prêtre, il a erré un moment. Cela est arrivé à bien d'autres, mais personne n'a jamais pu contester son dévouement pour ses fidèles, non plus que la pureté de sa vie. En somme, il n'aura dû qu'à un tempérament trop ardent, de ne pas occuper dans l'histoire du clergé canadien ou du clergé québécois une meilleure place que celle du premier et du dernier, de nos curés révolutionnaires. C'est un peu triste tout ça. Mais je vous rappelle que c'est aujourd'hui, sans vouloir faire des comparaisons outre mesure, la fête de saint Thomas Becket dont je vous ai parlé en 1995. Cet évêque de Canterbury, assassiné dans sa cathédrale par le roi d'Angleterre, Henri II, en 1170. Il était pourtant l'ami de ce roi. Mais il s'est opposé à ce roi parce que ce roi abusait des droits de l'Église. Le courage dans l'Église n'a jamais manqué. Et l'abbé Étienne Sertier, il est venu parmi nous, à mon sens, avec son tempérament. Oui, d'accord, mais je ne crois pas qu'il ait été un mauvais prêtre. L'abbé Étienne Chartier, souvenez-vous de ce nom. Prions pour lui, et prions pour tous les prêtres qui ont du courage et de la fierté. Il y en a beaucoup plus qu'on pense.